le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu ensemble dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20. Nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Évangile selon Matthieu, chapitre 20, le verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifie, et le troisième jour, il ressuscitera. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite, et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. » Je voudrais continuer sur la lancée de la semaine dernière et parler très simplement avec vous, encore une fois, de ce qu'est la mentalité d'un véritable leader, de quelqu'un que Dieu veut utiliser pour que son peuple soit enrichi, mais aussi pour le servir, notre Dieu, comme il est digne de l'être. Certainement que vous vous êtes rendu compte de ce qui se passe dans le monde séculier. Et je crois pouvoir dire, sans crainte de me tromper, qu'il y a une carence terrible au niveau des leaders. Les chefs de ce monde sont si peu dignes à l'heure actuelle et sont tellement éloignés de certains modèles qu'il y a eu dans le passé. Mais ce qui se passe dans le monde, nous le retrouvons malheureusement aussi au sein de l'Église, et nous nous apercevons qu'un manque réel se trouve au milieu de l'Église de Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de parler seulement de l'Église locale, mais de l'Église dans un domaine général. Alors, qu'est-ce qui fait d'une personne un leader ? Est-ce que c'est le rang social ? Est-ce que c'est son statut ? Est-ce que c'est le fait d'appartenir à une caste particulière ? Est-ce que c'est une certaine renommée ? L'influence qu'une personne peut avoir ? Un homme est-il automatiquement un leader parce que son nom se trouve inscrit ou mentionné dans un organigramme. Vous savez, être un leader, c'est plus qu'un titre. C'est une fonction, c'est une action qui doit être visible, remarquée par tous les autres. Un véritable leader ne manquera pas d'avoir des disciples. Jésus est venu dans ce monde comme modèle et il a attiré à lui les personnes qui, justement, ont été attentifs à son enseignement. Ils ont reçu une certaine discipline et ils se sont pliés aussi à cette discipline, non pas comme par obligation, mais après avoir reçu le secours et la puissance du Saint-Esprit, ils ont pu devenir entre les mains du Seigneur des canaux de bénédiction pour l'Église, et c'est ainsi que ce travail s'est perpétré. Jésus, en tous les cas, a répondu à certaines questions que l'on peut se poser au travers de quelques versets très simples. Un homme, je l'ai dit tout à l'heure, est-il simplement apte à être un chef, un dirigeant, un leader au sein de l'Église de Jésus-Christ, parce qu'il a une position sociale particulière, chef d'entreprise ou chef d'armée? Certainement pas. La réponse de Jésus, nous l'avons vue, n'est-ce pas, dans ce verset 20, où il répond à la mère de ses deux disciples du Seigneur, qui s'appellent Jacques et Jean, et quand il apporte un enseignement, il leur dit simplement ceci: les grands de ce monde asservissent les gens, asservissent les nations, mais vous, ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Et il leur montre comment ils peuvent être en effet des hommes utiles entre ses mains pour que l'œuvre de Dieu puisse continuer à se développer. Je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Dans un premier temps, dans le texte que nous avons choisi, Jésus, qui monte à Jérusalem, a pris à part les 12 et il leur dit en chemin: « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs. » Et il continue en précisant tout ce qui va lui être réservé. Et ce qui va lui être réservé, ce ne sont pas des choses naturellement agréables. Il dit simplement qu'il va être livré entre les mains des païens. Il dit qu'on va se moquer de lui. Il dit qu'il va être battu de verge. Et il termine en disant, et puis enfin de tout, il y a la crucifixion. Dites-moi, mes frères et sœurs, après une telle annonce, à quoi est-ce que l'on est en droit de s'attendre comme réaction de la part de ceux qui se disent disciples du Seigneur? Il me semble qu'il pourrait y avoir de la compassion, en tous les cas, il pourrait y avoir dans le cœur une sorte de reconnaissance pour l'amour qui va se manifester au travers d'un tel sacrifice, qu'il pourrait y avoir du respect et qu'il pourrait y avoir encore le désir de se soumettre encore plus à un maître tellement adorable, tellement bon, tellement miséricordieux qu'il est prêt à donner sa vie pour eux. Mais en fait, que se passe-t-il tout de suite après cette annonce? Eh bien, il est dit que la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec une sorte de prière, de requête particulière. Elle demande, comme quelque chose d'exceptionnel, que ses deux fils soient l'un à gauche et l'autre à la droite du Seigneur, quand il viendra dans son règne. Il me semble qu'il y a là une manifestation d'orgueil, une manifestation de vanité qui est malvenue, surtout après une telle annonce, après les paroles que le Seigneur a prononcées. Et j'aimerais vous dire que nous vivons un temps particulier où, au sein même de notre génération, se manifeste un esprit qui, il y a ne serait-ce qu'une seule génération en arrière, aurait été condamné très rapidement, jugé aussi sévèrement, parce que étant reçu comme inacceptable. Et pourtant, aujourd'hui, on est capable de parler d'accomplissement de soi, on est capable de parler de sa personne avec une certaine vanité, avec un certain orgueil, on est capable de se mettre en avant pour essayer de démontrer aux yeux des autres que l'on est aussi quelqu'un de valable, quelqu'un qui peut attirer l'approbation des autres. Et voyez-vous, cela ne rentre pas dans la mentalité que le Seigneur désire qu'un des leaders de l'Église puisse avoir dans son cœur. Il n'y a rien qui puisse être aussi, je dirais, condamnable que cette sorte d'orgueil qui nous fait croire aux uns et aux autres que nous sommes capables de faire quelque chose pour lui et que cette capacité, eh bien, elle vient de nous, de certains talents que nous pouvons avoir. Vous savez, même celui qui possède les talents les plus admirables, s'il ne les amène pas au pied de la croix, ses talents ne pourront jamais, jamais accomplir pleinement la volonté de Dieu. Car les talents naturels sont inutiles s'ils n'ont pas été livrés entre les mains de Dieu et que cette sorte de manifestation de la chair et du moi n'est crucifiée avec le Seigneur. Car ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est ce qui peut être accompli au travers de chacun d'entre nous par sa force. Ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, mais ce que nous laissons le Seigneur faire et accomplir au travers de nous par l'action puissante de son Esprit. En tous les cas, le texte que j'ai choisi ce soir met en évidence qu'il n'y a pas de place dans le service de Dieu, quel qu'il soit, pour la vanité ou pour l'orgueil. J'aimerais d'ailleurs vous dire que quand je parle de leader, je n'ai pas simplement en tête la pensée d'homme qui pourrait avoir un service depuis l'estrade, comme la prédication, comme les pasteurs, ou d'autres services qui sont en vue dans l'Église de cette manière-là. Voyez-vous, j'ai en tête le fait que chacun d'entre nous, nous pouvons être dans une sphère particulière un leader, un responsable, un chef. Par exemple, une maman qui a la responsabilité de ses enfants est aux yeux de l'Éternel aussi un leader. Et un leader doit être un exemple, un leader doit être un modèle. Un leader va créer une sorte de soif dans le cœur de ceux qui l'entourent pour aller dans la direction de ce qu'ils reçoivent de la part de ce leader. Et dans l'Église, On a besoin aussi de maman qui soit vraiment consacrée, capable de passer du temps avec les enfants. J'ai remarqué parfois qu'on a livré, abandonné l'éducation des enfants entre les mains soit d'un instituteur, d'un professeur des écoles, ou alors d'un moniteur de l'école du dimanche, en pensant que finalement c'était leur responsabilité, puisque c'était l'exercice de leur fonction. Mais voyez-vous, l'éducation des enfants, elle est confiée aux parents, à la maman dans une grande partie, et puis aussi au papa en tant que chef de famille. Et on se rend compte que même dans ce domaine tout simple, quand voyez-vous, vouloir aller plus loin et faire des choses plus grandes, plus importantes à nos yeux, sans être fidèle dans l'accomplissement de ce que le Seigneur nous demande sur le plan familial, eh bien, c'est une contradiction. Et nous avons besoin de demander au Seigneur que nous puissions faire tout ce qu'il nous demande, avec un cœur humble, soumis, en étant attentif à ce qu'il nous dit, en étant attentif à ce qu'il nous révèle. Et au travers de sa parole, il y a des indications très précises, même sur le plan familial, même dans le plan domestique, du travail, même aussi, et bien sûr, dans le cadre de l'Église, de l'Assemblée, et dans tous ces domaines, nous devons être attentifs. Le Seigneur regarde avant tout à l'état de notre cœur, à la disposition de notre cœur. Il y a une chose qu'il a en horreur, pardonnez-moi de me répéter ici, mais c'est la manifestation de l'orgueil. J'aimerais vous citer quelques versets de l'Écriture et au préalable vous dire que chaque fois que dans l'Église où c'est montré spirituellement forte, c'est qu'elle s'est tout simplement accrochée à la sagesse de Dieu, à la force de Dieu, et qu'elle s'est confiée en Dieu plutôt que de se confier dans les talents naturels. C'est pourquoi dans le livre des Proverbes, au chapitre 21, verset 4, il est dit ceci, « Les regards hautains et un cœur qui enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. » Dans le même livre des Proverbes, au chapitre 16 et au verset 5, il est dit, « Tout cœur hautain est une abomination à l'Éternel. » Et au chapitre 8 et au verset 13, il est dit, « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, de l'arrogance et l'orgueil, c'est la voie du mal. » Et dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 3 et particulièrement au verset 6, comme d'ailleurs au chapitre 6 et au verset 4, l'apôtre Paul dit que celui qui doit exercer une certaine fonction, un exercice dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, ne doit pas être un jeune converti, de peur, dit-il, qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le coup du jugement, écoutez bien, non pas de Dieu, mais du jugement du diable. Parce que l'ennemi de notre âme est toujours là comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et il va profiter de toutes les occasions où, faisant glisser dans notre cœur un esprit qui est contraire à l'esprit de Christ, va en quelque sorte utiliser cela pour la destruction de l'œuvre, pour la destruction de l'Église. Jacques rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux. Le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 23 et au verset 9, il est dit « Il blesse leur orgueil ». Et il parle là, bien sûr, du peuple qui a sombré dans l'orgueil, et Dieu, alors là, entre en jugement avec lui. « Il abaisse, dira encore un autre psaume, le regard hautain ». Et Daniel, au chapitre 4 de son livre et au verset 37, dit qu'il humilie tous ceux qui ont tendance à s'élever. Si je dis cela, c'est parce que la manifestation de cet orgueil s'est révélée au travers de la personne de la maman de ses deux disciples qui sont Jacques et Jacques et Jean, n'est-ce pas? Et c'est cette manifestation-là qui est horrible aux yeux de l'Éternel. Et nous allons prendre cet exemple-là pour en quelque sorte mettre en relief les quatre choses qui se sont manifestées au travers de l'attitude de cette femme et de ses enfants pour montrer comment ne pas être grand. Parce que leur manière d'agir, eh bien, c'était pour chercher à être grand. Et nous allons développer ce fait, comment ne pas être grand. Tout au long de son histoire, l'une des tactiques, je dirais, qui s'est démontrée par l'ennemi au sein de l'Église, c'est tout simplement d'utiliser les liens familiaux. Alors, écoutez bien ici. Peut-être cela n'apparaît pas dans le texte que nous avons lu. Mais dans d'autres passages, il est question de ces mêmes personnages et le nom de la maman de ces deux disciples est donné. Il s'agit de Salomé. Et qui est Salomé? La Bible nous dit que Salomé est la sœur de Marie, qui est la mère de Jésus. Si vous suivez cela, alors vous allez déduire, comme c'est logique, que les deux enfants de Salomé sont les cousins germains de Jésus. Et voilà donc ces personnes qui s'avancent vers le Maître. Et la Bible dit qu'elle se prosterne devant le Seigneur. Et elle adopte une certaine attitude extérieure pour faire une requête tellement particulière. Dans un autre évangile, il est question de la même chose. Et il est dit qu'ils ont abordé le Seigneur d'une manière différente. Ils ont dit, Seigneur, nous aimerions que tu fasses quelque chose pour nous. Un petit peu comme un enfant qui s'approche des parents et qui voudrait avoir la garantie avant de connaître la réponse des parents qui vont lui être favorables. Ils disent, nous voudrions que tu fasses quelque chose pour nous. C'est comme s'ils préparaient le terrain. Et d'un seul coup, alors, ils disent ouvertement ce qu'ils veulent. Un à ta droite, l'autre à ta gauche. Vous savez comment le Seigneur a répondu? Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et il parle ouvertement de la coupe que lui est appelé à boire. Et la coupe que lui est appelé à boire, nous la connaissons. Et quand il utilise cette expression « coupe à boire », cela signifie être prêt à aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous ordonne de faire, d'accomplir et de réaliser. Le Seigneur, lui, était dans cette disposition d'esprit. C'est la raison pour laquelle il dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Et eux, je dirais, ça m'aime bien se connaître Au fond d'eux-mêmes, ils répondent avec beaucoup, je dirais, de désinvolture, « Mais oui, nous pouvons boire cette coupe. » Arrêtons-nous ici un instant. Qui sont ces deux hommes? Est-ce que vraiment, à l'instant où ils sont en train de parler avec le Seigneur, ils sont dans une bonne disposition de cœur? Comment est-ce que le Seigneur a parlé d'eux et quelle est la manifestation de leur caractère? Vous savez comment Jésus, à un moment donné, s'est approché d'eux parce qu'ils avaient eu une attitude, je dirais, pleine de haine. Et à un moment donné, alors que Jésus devait traverser le territoire des Samaritains et que ces derniers n'avaient pas permis qu'il le fasse, alors ces deux disciples ont dit « Seigneur, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur eux ?» Et Jésus a profité de l'occasion pour les appeler à ce moment-là, vous le savez aussi bien que moi, « Boanerges », ce qui signifie « fils du tonnerre ». Avec cet esprit-là, on ne peut pas être agréable à Dieu. Avec cet esprit-là, on ne peut pas être un leader. Avec cet esprit-là, on ne peut pas accomplir le service de Dieu tel qu'il veut que nous le fassions. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu une transformation. Et c'est eux qui finalement ont également abandonné le Seigneur. Nous savons bien que tous les disciples ont abandonné le Seigneur. Si Pierre l'a renié, les autres n'étaient pas meilleurs. Mais eux ont pu être changés, transformés, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et que régénérés, transformés, à ce moment-là, ils ont pu être entre les mains de Dieu ce que Dieu voulait qu'ils soient. Et effectivement, on sait par ce qui est écrit dans la Bible que Jacques a été le premier martyr. Il a donné sa vie pour le Seigneur. Et nous savons que Jean, très âgé, a été amené en exil sur l'île de Patmos et qu'il a connu une grande souffrance par rapport à l'amour qu'il avait pour le Seigneur et le service qu'il accomplissait pour le Maître. Mais au moment même où ils ont fait cette demande, l'état de leur cœur, l'état de, je dirais, la mentalité qu'ils avaient n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que si à l'instant où ils ont fait cette requête, leur esprit n'était pas conforme à ce que Dieu attendait d'eux, vous voyez, pour nous, c'est une leçon et un enseignement que Dieu est un fidèle, si nous sommes vrais, il est capable de accomplir son œuvre parfaitement dans notre vie afin que nous puissions atteindre l'objectif qui nous est assigné, le but qui nous est assigné par Dieu. L'esprit n'était pas bon, ils ont utilisé les liens familiaux pour imposer en quelque chose leur leadership, mais Dieu a mis les choses en place et le Saint-Esprit a accompli finalement ce qui devait être fait pour qu'il soit rendu capable d'être agréable à Dieu. Parfois, je me rends compte que certaines personnes sont bien disposées. Mais voyez-vous, le fait d'être bien disposé n'est pas suffisant. On peut venir d'un seul coup et dire « Moi, je suis prêt à faire telle chose, à faire telle autre chose. » Mes frères et sœurs, pardonnez-moi d'insister là-dessus, mais que Dieu nous fasse la grâce. Avant de prendre une décision, et nous sommes dans cette période de décision, de nous tenir devant le Seigneur, pour ne pas faire ce que nous voulons, mais faire ce que Dieu attend que que nous accomplissions. Vous savez comment l'apôtre Paul, à un moment donné, disait ceci, « Je tiens durement mon corps asservi. » Et il dira à un moment donné, « Parce que je ne veux pas courir comme à l'aventure, ni frapper comme battant l'air. » Nous pouvons nous lancer dans un certain activisme, mais l'activisme, ce n'est pas dans le plan de Dieu. L'activité, oui, mais faire quelque chose parce qu'il faut le faire, sans avoir été vraiment, par le Seigneur lui-même, appelé à le faire, poussé à le faire, ça peut être un danger pour l'Église. Mais maintenant, si nous cherchons le Seigneur avec avidité et que nous prions Dieu dans le secret de notre chambre, pas seulement ici quand nous sommes rassemblés dans la réunion de prière, j'ai entendu quelqu'un qui a prié en ce sens ce soir en disant « Seigneur, nous avons besoin de passer du temps avec toi. C'est pas seulement le temps quand nous sommes ensemble dans l'église, mais du temps mis à part quotidiennement pour chercher le Seigneur. » Vous savez, mes frères et sœurs, il arrive parfois que nous arrivons ici comme autant de batteries qui sont vides, attendant que le pasteur, eh bien, soit le moyen par lequel ces batteries vont être rechargées. La meilleure des choses, ça devrait être que chacun d'entre nous, nous arrivions ici déjà remplis du Seigneur, remplis du désir de le servir, rempli aussi de sa glorieuse présence par l'action de son esprit dans notre vie et dans notre cœur. Et à ce moment-là, tout peut changer. En tous les cas, réfléchissons à cela et retenons que cette manière d'agir de la part de cette femme comme de ces deux hommes n'était pas agréable à Dieu. Il y avait un deuxième point manifesté ici. C'est une ambition égoïste. D'ailleurs, faisant fi de la mère, Jésus lui-même a répondu comme cela. Il n'y a pas la moindre idée de ce qui implique leur demande quand il parle de la coupe de souffrance. Ne réalisez-vous pas, dit-il, que le moyen d'obtenir la gloire éternelle n'est pas une question de réussite, mais c'est une question de souffrance. Et je sais que ça sonne très mal dans les cœurs, un enseignement pareil, parce que on ne veut pas connaître la souffrance. Mais il est impossible d'accomplir quelque chose pour le Seigneur sans connaître une opposition, sans connaître dans le fond, eh bien, la réaction de l'ennemi de notre âme, sans connaître aussi certaines difficultés qui proviennent de la chair, de ses cœurs, qui sont parfois irrégénérés dans notre entourage, je ne parle pas au sein de l'Église. Poursuivre une chose jusqu'à la fin nécessite un grand courage et une grande persévérance. D'ailleurs, j'ai remarqué que parmi les leaders qui sont mentionnés dans l'Écriture, il y a des caractères différents. Mais ce que l'on sait de chacun d'eux, c'est qu'ils étaient très attachés à Dieu et dans une relation étroite avec Dieu. Par exemple, je prends dans l'Ancien Testament le cas d'Élie. Voilà un homme qui est un solitaire. Vous le trouvez toujours un peu à l'écart. C'est un prophète solitaire. Mais dans sa solitude, avez-vous remarqué comment il est en contact avec Dieu? Comment il a cette relation étroite avec Dieu? Prenons un autre personnage, Moïse. Moïse dont la Bible dit que c'est l'homme le plus patient. N'empêche qu'au départ, ce n'était pas le cas. Et nous savons combien il a été capable de réagir avec sa chair très violemment au moment où il a vu que l'un des enfants d'Israël se faisait maltraiter par un Égyptien. Et là, il a utilisé sa force, lui qui était appelé à devenir un leader en Israël. Et il a fallu que Dieu le change, le transforme par le passage dans le désert. Et après cette école avec le Seigneur, quand Dieu l'a appelé à faire ce à quoi il était appelé, eh bien, il a dit, « Seigneur, je ne suis pas capable. Je suis un homme à la langue embarrassée. » Et il a mis en évidence sa grande faiblesse. Et il a fallu que Dieu lui communique cette force pour qu'il puisse accomplir ce que nous savons qu'il a fait au milieu du peuple de Dieu. Je pourrais multiplier les exemples. Il y a des hommes qui ont eu des caractères différents, mais quand ils ont été saisis par Dieu, alors des choses formidables ont pu s'accomplir. Mais une chose est certaine, c'est que chaque fois, leur ambition égoïste qui était au préalable a dû être détruite par le Seigneur. Et quand cela a été détruit par le Seigneur, alors ils ont été aptes pour accomplir ce que Dieu voulait. Naturellement, dans le cœur humain, vous savez ce qui est la pensée dominante, c'est d'être quelqu'un qui domine les autres. Et un leader, surtout dans l'Église, ne doit pas être quelqu'un qui domine. Nous connaissons l'enseignement que Pierre a donné. Dans son épître, il donne des conseils à ceux qui sont appelés à être évêques, à ceux qui sont appelés à servir le Seigneur par le moyen de la prédication de la parole de Dieu. Et il leur dit, justement, de veiller sur le troupeau, non pas comme dominant sur le troupeau, mais en leur donnant la nourriture, en veillant sur eux. Et on remarque souvent cette sorte de tendance, même dans le monde religieux et dans les églises, où certaines personnes désirent dominer les autres. Le Seigneur leur rappelle une mauvaise façon d'agir au travers de l'exemple de ces grands de ce monde. Il dit, eux, là, ils tyrannisent les nations. Et nous ne devons pas avoir cette mentalité, cet esprit-là de domination pour, en quelque sorte, eh bien, amener les autres à faire ce que l'on veut. Sauf si c'est de les amener sur le chemin de l'obéissance à Christ. Paul, par exemple, invoquait le Seigneur, priait le Seigneur, et même souffrait. À un moment donné, il s'exprime en ces termes, et il dit, « Mes petits enfants, pour lesquels je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Et voyez-vous, là, on se rend compte de l'esprit d'un véritable leader qui ne désire pas dominer, mais qui désire conduire les autres tout simplement aux pieds du Seigneur pour que eux-mêmes puissent être saisis par le Seigneur, grandir en lui, ne restent pas dans un état, infantile, mais qu'ils deviennent des hommes à la stature parfaite de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, ici, eh bien, il a condamné cette mentalité d'un esprit dominateur. Et en même temps, il condamne aussi la force de manipulation qui peut être utilisée par certaines personnes. Il a condamné les tyrans de ce monde. Et quand il s'adresse à ses disciples, ces derniers savaient tout ce qui se passait à cette époque-là. Ils avaient entendu parler d'Hérode, ils avaient entendu parler de Pilate, ils avaient entendu parler de Pharaon, ils avaient entendu parler de César. Tout ça, c'était les gens qui tyrannisent. Mais là, maintenant, eh bien, ils parlent d'autres personnes avec notre mentalité. Et il dit ceci, mais Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Je voudrais vous parler d'une certaine forme de manipulation au sein de l'Église. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser même ce que l'on appelle les dons spirituels pour exercer une forme de manipulation au sein de la communauté. Vous savez, je suis très surpris, étonné de voir comment certaines personnes, eh bien, sont fières des dons qu'ils ont reçus de la part de Dieu. Je parle des dons spirituels. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'église de Corinthe, cette sorte d'orgueil à cause des dons spirituels s'est manifestée et l'apôtre Paul est obligé de reprendre ces Corinthiens qui exerçaient tous les dons spirituels. Je pense que vous priez dans la maison pour que les dons spirituels puissent être davantage manifestés au milieu de nous. Mais ils ne doivent pas servir à exercer un pouvoir sur les autres. Je vais m'expliquer plus clairement. J'étais dans une réunion lorsqu'un certain personnage, homme de Dieu au demeurant, qui avait vu des choses très bonnes être accomplies par le moyen de son ministère, et certainement qu'il possédait un don exceptionnel, un don de guérison qui était confirmé parce que, effectivement, j'ai pu moi-même constater des choses extraordinaires qui se sont accomplies au travers de l'exercice du ministère de cet homme. J'étais dans une certaine église où se trouvait un monsieur qui avait été guéri de la sclérose en plaques, alors qu'il était sur le fauteuil roulant, par le moyen de cet homme qui a prié avec ferveur, avec force pour lui, et cet homme est sorti de son fauteuil roulant, et il était entièrement guéri. Je dis bien, c'était un authentique miracle. Mais quelque temps plus tard, j'ai vu cet homme de Dieu sur l'estrade, et écoutez ce qu'il a dit ouvertement. Il a dit, ses mains ont guéri des milliers de malades. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Qui est-ce qui guérit les malades?
Jésus.
C'est Jésus. Vous voyez comment on peut, à un moment donné, eh bien, être saisi par l'orgueil de ce que Dieu nous a donné. Et à un moment donné, ça peut être très dangereux, parce que l'ennemi guette, et ce qui a été au service de Dieu, à partir du moment où on ne remplit plus les conditions que Dieu réclame, eh bien, l'ennemi peut s'interposer. Et ce qui était à la gloire de Dieu peut devenir un moyen entre les mains du diable. Vous allez dire, est-ce que vous pouvez démontrer cela ? Eh bien, lisez l'Ancien Testament, lisez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament déjà. Et vous avez le cas d'un homme qui s'appelle Balaam, qui ne reconnaît en lui un prophète capable de dire la vérité, d'annoncer seulement ce que Dieu veut qu'il annonce. Cependant, comment il a terminé ? À partir du moment où son cœur n'était pas en accord avec le cœur de Dieu, à partir du moment où il est sorti du terrain, de la soumission à Dieu, de la consécration à Dieu, de l'amour véritable pour Dieu, mais qu'il a recherché un intérêt personnel, la Bible nous dit clairement que de prophète, il a terminé sorcier. C'est-à-dire quelqu'un qui, entre les mains du diable, est devenu un instrument redoutable. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller pour que les charismes que nous avons pu recevoir de la part de Dieu ne nous servent jamais pour une manipulation. C'est comme cela que certains ont utilisé certaines choses reçues de Dieu au sein des églises et que ces églises ont été troublées, elles ont même été en difficulté parce que malheureusement, on a détourné ce que Dieu a donné pour s'en servir à des fins personnelles, égoïstes, dans un but de dominer, dans un but de régner. Et Dieu ne nous a pas appelés à régner les uns sur les autres, mais nous a appelés à veiller les uns sur les autres. Vous savez, il y a une grande différence entre surveiller et veiller. Dans quelques temps, nous aborderons les méditations concernant l'exercice du ministère des diacres, l'exercice du ministère des anciens, et nous allons voir qu'ils sont appelés à veiller, mais pas à surveiller. Et quelquefois, eh bien, malgré soi, on se détourne du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, pour agir selon notre propre désir. Vous savez, à un moment donné, l'Écriture est claire, et elle dit ceci, que personne ne soit amené à être jugé pour s'occuper des affaires des autres, ou plutôt s'ingérer dans les affaires des autres. Chacun d'entre nous, nous avons une relation avec Dieu. Chacun d'entre nous, nous recevons de Dieu quelque chose. Chacun d'entre nous, nous devons savoir ce que le Seigneur attend de nous. Mais nous ne devons jamais permettre à qui que ce soit de s'ingérer dans nos affaires personnelles. Écoutez bien, mes frères et sœurs, ça c'est une chose très importante. À partir du moment où quelqu'un d'autre veut diriger à l'intérieur de ce qui nous concerne personnellement, eh bien, il faut être ferme. Il n'y en a qu'un seul qui doit régner, qui doit dominer, qui est notre chef suprême, puisqu'il est le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Mais pour autant, cela ne nous écarte pas du service auquel Dieu nous appelle. Ce soir, ce que je voulais mettre en relief, c'est qu'il faut bannir de notre cœur tout ce qui est contraire à sa volonté et particulièrement un esprit d'orgueil, de vanité ou de domination. Et si nous sommes dans un esprit de service, de sacrifice, d'altruisme et que nos yeux sont fixés sur le modèle qui est Jésus, alors à ce moment-là, nous allons pouvoir être utiles entre ses mains et Dieu sera glorifié au milieu de nous. Alors que Dieu nous aide à prier dans ce sens et à le chercher pour que nous soyons dans la mentalité et l'état d'esprit que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Que Dieu vous bénisse. On va prier une dernière fois.